Je vais verrer plus tard.
Tout à fait, c'est ça.
Si elle a habillé pour Ave, Clodo, machin, une bête dans sa gueule, elle circule.
Ça fait sens.
Et si elle s'est mal à gueuler, ben ça, je l'amène au dépôt. Ça, je sais pas.
88.4, Radio Galère.
Bonjour et désolé pour le retard.
Bonjour tout le monde et puis bah, merci beaucoup à l'équipe de Radio Galère de nous recevoir de nouveau. C'est toujours un plaisir de pouvoir intervenir ici.
Oui, peut-être qu'avant de parler des initiatives qui sont prévues, il faut peut-être rappeler ce qui se passe. Alors, Georges, qui est d'ailleurs, moi je tiens à le rappeler parce que c'était un honneur pour nous, qui est le président d'honneur de l'ANC, et est en prison, ben, ça fera exactement 40 ans demain, le 24. Il est en prison au départ pour une histoire de faux papiers.
Excusez-nous, on a eu un tout petit problème technique en début d'émission. Alors, on est bien sur l'émission de Article 25. Est-ce que, Bernard, tu veux bien refaire ton introduction parce qu'on a eu un tout petit problème. Tu peux nous réintroduire les personnes qui sont avec nous sur le plateau pour cette émission qui va durer une heure de Article 25. Merci.
Voilà. Bien donc, il nous faut recommencer tout ça, c'est bien ça. Voilà. Bon, alors, Article 25, émission du 25 octobre 2024, voilà. Charles, rebonjour. Et rebonjour, Émilie.
Rebonjour, tout le monde.
Alors, je pense qu'on peut y aller maintenant.
Allez, c'est parti, alors. Donc, oui, avant de parler des initiatives qui sont prévues pour Georges Abdallah, je pense que ce n'est pas inutile de rappeler qui est Georges. Alors, d'abord, moi, je tiens à dire en premier, parce que c'est un honneur pour nous... Georges, c'est le président d'honneur de l'ANC et il a accepté, n'importe comment, il a accepté après avoir lu ce qu'on publiait comme texte et quelle position on avait. C'est quelqu'un qui a été arrêté pour une histoire, c'était un Libanais, hein, défenseur de la cause palestinienne, et qui a été arrêté pour une histoire de faux papiers, qui était réelle. Puisque c'était l'époque où le FPLP auquel il appartenait, et puis une autre organisation qui est dans le combat pour la Palestine, avait décidé de mener le combat aussi en Europe et dans les pays impérialistes qui soutenaient Israël. Et donc, il avait de faux papiers algériens, il aurait pu être libéré au bout de 15 jours. C'est d'ailleurs la promesse qu'avait fait le gouvernement français au gouvernement algérien qui avait demandé son extradition. Vous savez qu'en Algérie, quoi qu'on passe des gouvernements qui se sont succédés, elle a toujours été un défenseur de la Palestine. Et là, au bout de 15 jours, ben, il n'est pas libéré. Alors je passe les péripéties. Il y a tout un complot qui se met en place. On découvre d'un coup, miraculeusement, que dans un appartement qu'il a arrêté et qu'il a occupé 2 ans auparavant, il y avait une arme qui aurait servi à avoir tué des gens. Enfin bon, je passe les détails. Toujours est-il que, pour une banale affaire qui aurait pu lui coûter 15 jours de prison, voire 3 mois, il se retrouve condamné à 30 ans de prison. 30 ans de prison. Donc il était libérable, selon la loi française, c'était en 1984, donc il était libérable en 1999. Et là, il fait sa demande de libération. Elle est refusée. Et elle sera refusée 10 fois. 10 fois, je passe, il y a les appels, etc. C'est compliqué. Il y a 10 demandes de libération qui sont refusées. Il arrive le terme de sa peine qui est le 2014. Et là, ben, il doit sortir. Il a pris ses affaires, son baluchon. Ses amis l'attendent à l'aéroport à Beyrouth. Et il franchit la porte de sa cellule. Il franchit presque l'entrée de la prison. Et à ce moment-là, il est arrêté parce que le ministre Valls refuse de sa libération. Et depuis donc 2014, il est dans cette situation de non-droit où il est bloqué à Lannemezan. Et donc, ça fait 40 ans maintenant.
Voilà. Alors juste, parce que c'est souvent une question qui nous est posée, est-ce que tu peux nous parler un peu du poids des États-Unis, du gouvernement des États-Unis dans l'affaire Georges Ibrahim Abdallah ?
Alors oui, je peux en parler, mais les États-Unis ont toujours dit qu'ils refusaient que la France libère Georges Ibrahim Abdallah. Mais ce n'est pas eux qui décident. C'est la France qui décide. Donc oui, on doit dire que Israël et les États-Unis, parce qu'Israël ont fait la même démarche, veulent surtout pas sa libération à Georges, mais la France non plus. Elle se sert des États-Unis pour dire, vous voyez, ils ne veulent pas qu'on le libère, quoi.
Et une autre question qui nous est régulièrement posée, c'est quand même la question de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire.
Alors, ceux qui posent cette question-là, il faut leur expliquer que la France n'est pas une démocratie et ils sont bien naïfs. S'ils croient qu'il n'y a pas de décision politique, je vais vous donner un petit détail qui concerne notre quotidien. Là. Il y a une boîte qui est en grève qui s'appelle Idée Logistique, dans le 15e face au lycée Nord à Marseille. 4 heures du matin, le piquet de grève. D'un coup, on va arriver, 2 voitures remplies de flics, 8 policiers à 4 heures du matin pour le piquet de grève. Mais juste 2 rues à côté, il y a un point de deal. Et là, eux, les flics les laissent tranquilles. Voire même certains se servent au point de deal. Donc, ça, c'est choix. D'après la justice, c'est beaucoup plus grave de vendre du shit que, ou autre chose d'ailleurs, que de faire grève, non ? Puisque le droit de grève existe. Ben non. D'après la réalité. Donc, il n'y a pas de séparation entre le pouvoir politique et le judiciaire. Et c'est bien pour ça qu'on va faire toutes les initiatives qu'on va faire depuis... Alors moi, j'ai commencé en 2005. Je crois que ça a commencé à ce moment-là. Je ne suis pas bien sûr, j'ai une erreur sur une date. Mais en tout cas, depuis des années, on sait très bien que c'est le poids de l'opinion publique qui peut faire basculer ou pas les décisions judiciaires. Et d'ailleurs, juste dans, il y a un exemple dans l'actualité. Macron, qui est un grand humaniste, tout le monde le sait ici, il a dit qu'il ne fallait plus livrer d'armes à Israël. Alors ça, c'est gentil. Merci Macron. Et dans son argumentation, il dit l'opinion publique, elle ne comprendrait pas qu'on continue à livrer des armes, ça monte. Eh bien, il a raison. Parce que depuis un an, il y a des manifs toutes les semaines. Malgré la répression, malgré les interdictions, ils n'ont pas réussi à empêcher le mouvement de protestation contre le génocide en cours. Et ils se rendent bien compte que la protestation, même si les manifs n'arrivent pas à faire tout ce qu'on voudrait faire, en tout cas dans les consciences, dans les têtes des habitants de France, ben ça monte l'idée que c'est vraiment Israël est un gouvernement génocidaire. Donc l'opinion publique, elle pèse. Et donc si aujourd'hui, le pouvoir politique, peut-être un jour, il va interdire par un arrêté donc judiciaire toute livraison d'armes avec Israël, ce sera parce que la rue aura pesé et parce que donc, ça se traduira politiquement et après judiciairement, quoi.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les manifs à Marseille, leur fréquence et leur évolution, et puis de quelle manière la cause de Georges est maintenant incarnée aussi dans ces manifs tous les dimanches ?
Alors, c'est assez... comment dire ? Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire ce qui se passe à Marseille. Bon, moi, je suis le dirigeant national de l'ANC, Zarma, comme on dit, le grand chef. Ce n'est pas l'ANC qui a décidé ces manifs. On a soutenu depuis le début. C'est parti de... notamment de jeunes, et notamment de jeunes femmes issues de l'immigration en majorité, et qui ont lancé ça, et depuis le 10 octobre, c'est-à-dire donc quelques jours après l'acte de résistance du 7 octobre, et tous les dimanches depuis, tous les dimanches, il y a une manif. Parfois elles sont plus nombreuses, parfois elles sont moins nombreuses, mais ça n'a pas arrêté. On s'est adapté à l'été, on s'est adapté au Ramadan, mais ça n'a pas arrêté. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est un mouvement qui est parti et qui, après, autour de lui, a réussi à rassembler un certain nombre d'organisations. Il n'y a pas que l'ANC, hein, il y a la jeunesse communiste, il y a plusieurs organisations, il y a l'UJFP, voilà. Il y en a plusieurs. Et ce mouvement, il tient. Et au moins, il a le mérite de dire mais on n'acceptera pas le génocide et on ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu.
Est-ce que pour les auditeurs, tu peux dire qu'est-ce que c'est la LNC, que tu l'as dit plusieurs
la
fois.
LNC, ouais. Ah oui, pardon, LNC, excuse-moi. Ouais. L'Association nationale des communistes, qui d'ailleurs va changer de nom parce qu'on fait un congrès, on va se rassembler avec d'autres.
Okay, merci.
Voilà. C'est un. Oui, tu as raison de me poser la question. C'est une association qui est née en 2016. Quand on s'est dit que la gauche n'était pas très à gauche et que les communistes n'étaient peut-être pas très communistes. Et donc, le PCF n'était pas très communiste. Donc, on est effectivement cette association-là. Et on va changer de nom parce qu'on est en train de s'étendre et de fusionner avec d'autres. Donc, on va trouver un nouveau nom. Mais ce sera toujours très rouge. Il n'y aura pas de problème. Donc, voilà. En tout cas, on est dans ce mouvement. Et ce mouvement, je pense qu'il a le mérite au moins de porter la question de la paix juste. De la paix juste, parce que ce n'est pas que la paix. La paix, elle ne peut pas tenir s'il n'y a pas de justice. Mais ce qui est nouveau dans ce mouvement, alors je crois que modestement, nous, on y est pour quelque chose, c'est que l'histoire de Georges Ibrahim Abdallah, qui était très peu connu des Marseillais, aujourd'hui, elle prend de l'ampleur et elle est très connue. Et maintenant, il n'y a pas une manif sans qu'il y ait des slogans pour exiger la libération de Georges. Mais pour donner... c'est pas qu'en Marseille, hein, ça, c'est dans la France entière. Après, si on parle des rendez-vous, je pourrais en dire un peu plus là-dessus. Voilà. Donc voilà, avec Georges, on est devant le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Dans le monde, il y a Léonard Peltier, l'Indien, là, et Mumia Boujamal, le Noir. Comme par hasard, hein, c'est un Indien, un Arabe et un Noir. Et qui sont tous les trois détenus arbitrairement. Alors deux aux États-Unis et un en France. Et la France, elle se distingue, pays des droits de l'homme, comme on dit. Ce qui est une invention complète d'ailleurs, mais comme un des pays au monde qui a les plus vieux prisonniers politiques.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as entendu parler de la cause de Georges ? Je pense à Suzanne.
Alors, j'ai entendu parler de la cause de Georges. En fait, moi, quand il a été arrêté en 1984, on avait entendu parler de ça. Il était présenté comme un grand terroriste. En fait. Il y a le film Fedaïn, si vous avez la chance de le voir, il montre bien comment Georges était traité comme un grand terroriste, alors que tout le monde sait bien qu'il n'a jamais commis aucun attentat lui-même et qu'il a mené le combat, c'est tout. Mais bon, il avait été condamné, on avait exigé sa libération, on avait trouvé le jugement scandaleux, puis on n'avait plus entendu parler de lui. Et moi, en 2004 ou 2005, je ne sais plus bien les dates, il y a une militante de Marseille qui s'appelle Soraya et qui vient me voir en me disant « Mais tu sais, voilà, je suis le cas de Georges Ibrahim Abdallah. » Je me dis « Comment que ça se fait ? Il n'est pas reparti au Liban, lui ?» Et donc, je me renseigne et j'apprends qu'il y a un comité national de soutien qui s'appelle « Libérons Georges », animé par une amie depuis, qui est devenue une amie qui s'appelle Suzanne Lemanceau, qui est décédée là récemment, et que ben voilà, de ce comité, avec ses petits bras musclés, il essaye de se battre pour la libération de Georges. Et donc on a... il y a une première manif à Lannemezan, alors je ne sais plus quand c'est, je crois que je ne sais plus la date. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va faire une réunion à l'initiative. À l'époque, nous, notre petit groupe, il s'appelait Rouge Vif 13. Et on va écrire à l'ensemble des organisations et des associations pour dire, mais il faut qu'on se rassemble pour la cause de Georges. Et j'ai revu Mustapha il n'y a pas longtemps, enfin, justement pour l'hommage à Suzanne, il se rappelait de cette réunion puisqu'il y était. C'est là qu'ils ont décidé de créer l'association Campagne Unitaire pour la Libération de Georges. Mais si les gens en France ne le savent pas davantage, autant le dire, c'est pendant des années, les grandes organisations politiques, les grandes organisations syndicales, elles n'ont jamais dit un mot sur Georges. Ça change depuis quelques années. Moi, je suis à la CGT, je peux le dire tranquillement. Hein. Il y a, je crois que ça fait 3 ans que la CGT dit clairement qu'il faut la libération de Georges. Avant, elle ne s'exprime pas. Et que la manif de Lannemezan qui se fait chaque année au moment de l'anniversaire de l'arrestation de Georges, donc autour du 24 octobre, jusqu'à présent, très massivement, presque exclusivement, c'était le fait de petites associations locales. Ça a commencé à changer depuis 2-3 ans. Et là, cette année, je sais qu'au moins la CGT va, dans le sud de la France, va être présente. Elle va faire voilà, ce qu'il faut. Moi, je sais que sur le Tarn-et-Garonne, ils vont être au moins une trentaine. Sur la Haute-Garonne, Toulouse, il va y avoir un quart CGT, un quart de mes camarades de Palestine vaincra. Donc là, ils ont travaillé la main dans la main. Donc voilà, là, il y a un peu du bouger. Ici, dans les Bouches-du-Rhône, c'est un peu particulier parce que la cause de Georges, elle a été prise à bras le corps par l'UDCGT 13 depuis un petit moment maintenant. Et d'ailleurs, la CGT participe grandement à la mobilisation pour Georges et même elle aide au financement des cars pour la manif du 26 de samedi prochain. Voilà. Si je...
Charles, depuis le temps qu'on fait des manifs pour la Palestine, j'ai fait un petit calcul et nous avons dépassé la quarantaine, à ma connaissance, la quarantaine de manifestations.
Alors, pour les dimanches, rien que les dimanches, c'est 54.
Voilà. Tu m'as battu, là.
Il y a 54 dimanches. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on peut... Il n'est pas parfait, le mouvement. De toute façon, il n'y a aucun mouvement de parfait. On peut critiquer les camarades d'urgence Palestine, Marseille. Ils ne font pas bien, ils font bien. Mais putain, 54 dimanches. 54 dimanches, fidèle au rendez-vous. Enfin, maintenant, on a un noyau militant, on se connaît, quoi. On se connaît, c'est devenu des amis, je ne sais pas comment dire. Les gens, ils sont là. Après, on a besoin, par exemple, pour les cars, là. Pour le départ en car, on va faire des casse-croûtes pour les gens. Parce que tu pars à 5 heures du matin, tu reviens à minuit, il faut que les gens y mangent. Et bien, je sais qu'il va y avoir une mobilisation des gens d'urgence Palestine, de l'ANC, pour faire les sandwichs, pour que les gens ne mangent pas dégueulasse, c'est pas cher. Et on a commandé des drapeaux de Georges qu'il faut recoudre. Mais on va mobiliser les gens pour coudre les drapeaux. Voilà, il y a vraiment un engagement militant très fort, quoi. C'est ça que le sionisme comprend pas. Enfin, les dirigeants sionistes d'aujourd'hui, en tout cas, ils ne le comprennent pas. Que certains juifs et certains israéliens comprennent, c'est qu'ils ne tueront pas ça. Un jour, Georges, quand je suis allé le voir en prison, là, il m'a dit, mais tu sais, Charles, il y a 300 millions d'Arabes. Ils en tuent, il y en a un autre qui le remplace. En fait, le peuple, les peuples, je ne sais pas si on peut parler de nation arabe, mais les Arabes du Moyen-Orient en particulier, mais aussi ceux de l'Algérie, même ceux du Maroc, quels que soient leurs dirigeants de merde qu'ils peuvent avoir, parce qu'ils ont souvent des dirigeants de merde, ils se sentent palestiniens, quoi. D'ailleurs, Georges, c'est pas un palestinien, c'est un Libanais. Hein. Et c'est la cause palestinienne, c'est la cause du peuple arabe, quoi. Voilà. Aucune guerre ne pourra empêcher ça. C'est pour ça que certains Israéliens disent Israël a déjà perdu la guerre. Alors qu'il y a des milliers de morts, alors qu'ils ont la supériorité de l'armée, de l'aviation, etc., le financement des États-Unis et de l'Union européenne. Mais déjà dans les têtes, ils ont perdu la guerre. Et la protestation, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plus de 1000 Israéliens qui signent un texte pour dire « bon, il faut arrêter, il faut le cesser le feu maintenant ». Voilà, il y a... et c'est pour ça que le combat de Georges, il est encore... Parce que Georges, il serait libéré. Il suffirait, alors vraiment, il suffirait qu'il dise ben, « finalement, les Palestiniens ont tort de se battre. Je regrette ce que j'ai fait. » Il est libéré le lendemain. C'est ce qu'on lui a dit encore quand il est passé à un tribunal le 7 octobre. Et lui, il ne va pas renier une vie de combat. Hein. Donc voilà, il est en prison.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le dernier jugement?
Alors... Georges, il m'avait dit, je ne fais plus de demande de la libération. J'en ai fait 10, ça va, quoi. Je n'en fais plus. Bon. Parce qu'il y a les demandes de libération, il y a les appels, il y a les procédures. Bon, c'est un boxeur chaque fois. Hein. Et il était découragé. Et puis son avocat l'a convaincu, il lui a dit, écoute, fais-en une 11e là, parce que maintenant, quand même, tu vas arriver aux 40 ans, la mobilisation, le monde dans le pays, on parle de toi, etc. Donc il a dit, ça va, je fais une demande de libération. Il l'a faite au mois de... Alors que je n'ai pas de conneries, si je pense bien, c'est février ou mars dernier. Parce que quand en avril, le 2 avril, c'est l'anniversaire de Georges. C'est le seul anniversaire que je connais par cœur. Et chaque année, on fait aussi des initiatives le 2 avril. Et donc le 2 avril, je me rappelle, il y avait une conférence de presse à Alain de Meusan. Et déjà, on avait vu l'avocat qui avait dit, bon, il a fait la, j'ai fait la demande de libération. Normalement, ça devrait passer en mai-juin. Et c'est pas passé. Alors, ils ont laissé passer encore je ne sais pas combien de mois, et d'un boum, le jugement, le juge d'application des peines qui vient à la prison pour rendre le jugement, il a fixé l'audience le 7 octobre. Il y a des coïncidences hasardeuses quand même. Donc, ils ont fixé l'audience le 7 octobre 2024, et là, il y a, donc la procédure, c'est quoi? Il y a un juge et deux procureurs. Et les deux procureurs qui représentaient l'État français ont dit on ne peut pas le libérer, il faut le maintenir en détention parce qu'il continue à être pour la Palestine. Voilà. Donc, c'est même pas, il n'y a rien de juridique, là. C'est complètement politique pour répondre à ta question. C'est quand bien même il aurait tué le mec de la CIA et le mec du Mossad. On peut en passer ce qu'on veut, moi je ne trouve pas, voilà. Quand bien même il aurait fait ça, quand bien même il aurait pris, il aurait été condamné à juste titre, il a fini sa peine. Il a fini sa peine, il devrait être libéré. Mais non, c'est le seul détenu à qui on demande pour le libérer, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Et d'abord en plus lui il n'a pas fait, puisqu'au moment des faits il était en prison, donc ce n'est pas lui qui a fait en plus. On lui demande en fait de renier son combat, de dire Israël c'est bien et la Palestine c'est mal. Mais comment voulez-vous qu'il dise ça?
Alors avant d'en arriver peut-être sur les deux prochaines journées de mobilisation, je pense que ce qui serait important, et nous avons l'occasion grâce à cette antenne de pouvoir revenir sur cette question-là, le conflit Israël-Palestine, guerre de religion.
D'abord c'est pas un conflit. C'est une guerre de colonisation. Voilà. 1830, c'est pas aujourd'hui, 1830, Palmerston, le ministre anglais, la Palestine, à ce moment-là, c'est une colonie. Il dit il faut qu'on ait une voie pour le commerce entre les Indes et l'Europe, et ça va passer par le canal de Suez. 1830. Et dans la foulée de ça, 1860, on dit il faut... Parce qu'il y avait un véritable problème d'antisémitisme en Europe. Les Juifs, ils étaient racontés les pires conneries, ils ont le nez crochu, et ils n'aiment que l'argent, etc., etc. Bon, voilà. Et il y avait une véritable chasse aux Juifs. Hein. Et donc là, pour résoudre ce problème de l'antisémitisme, on s'est dit, on va les envoyer quelque part. On va leur créer un pays entre eux. C'est comme si on disait... les Arabes, y a un problème de racisme avec les Arabes, on va les mettre dans un endroit et puis comme ça, on vire tous les Arabes de France. Donc c'est ce qu'on a décidé en Europe. Et l'Angleterre, qui était quand même la première puissance terrienne du monde, elle avait 25% des terres émergées, elle réfléchit à ça, de créer un foyer national juif. Et là, pourquoi on l'implante en Palestine? Rien à voir avec l'histoire, le peuple élu, les conneries qu'on nous ressort de temps en temps. C'est parce que c'était un lieu stratégique. Parce que justement, il y avait le canal de Suez. Et donc, si on va décider d'implanter un foyer national juif là, c'est parce que les Juifs, c'est quand même des Occidentaux. C'est pas des Ottomans, c'est pas des Arabes. Donc, ils sont sensibles à l'intérêt des peuples colonisateurs. C'est-à-dire principalement la France et l'Angleterre. Donc on va les mettre là parce qu'ils auront la mentalité occidentale, on commercera avec eux et ils vont faire un coin dans l'Empire ottoman de l'époque. Et puis il y a la déclaration de Balfour en 1917, ce fameux ministre anglais qui va conforter ça. Il faut créer un foyer national juif. Donc déjà on part sur une idée d'un État religieux communautariste pour... enfoncé un coin dans l'Empire ottoman. Et à partir de 1917, il va y avoir des fous furieux, Ben Gurion, Menen, Begin. Bon, je vais être accusé d'apologie du terrorisme quand je dis ça, mais peu importe, eux, je ne peux plus leur faire de mal, ils sont déjà morts. Mais qui vont faire des attentats terroristes, ils vont faire exploser des bombes, ils vont brûler des femmes et des enfants pour implanter les Juifs en Palestine. Ces gens-là, ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et l'aéroport de Tel Aviv, il s'appelle Ben Gurion, et Menachem Begin, il n'a jamais été banni de la justice soi-disant démocratique occidentale. Et donc, il va y avoir, dès le début, une guerre qui n'a toujours été que contre des civils. Parce qu'il faut bien comprendre que la Palestine n'a jamais eu d'armée. Voilà. Quand on nous parle du massacre des civils du 7 octobre, mais les massacres de civils, ils ont démarré après la déclaration de Balfour de 1917, du côté palestinien. Et il y a eu, jusqu'à la Nakba de 1947, bien, il y a eu ces fameux 400 villages qui ont été rasés, les gens qui ont été contraints de partir, etc. Alors l'ONU va prendre une décision bizarre, parce qu'avec le recul, c'est vraiment une décision bizarre, de dire on va faire deux États, un pour les Juifs et un pour les Arabes. Déjà, ça ne marche pas, ça. Parce que ça veut dire qu'on fait un État pour des gens sur la base d'une religion et un autre État sur la base d'une supposée race. D'abord, la race arabe n'existe pas. Et les Juifs qui vivaient en Palestine, avant que cette décision soit prise, ils étaient intégrés à la vie civile palestinienne. Quoi. Voilà. Donc déjà, ça ne marche pas. Mais quand même, l'ONU va mettre une condition qui est très importante et qu'on oublie souvent. On peut créer l'État d'Israël à condition de garantir le droit au retour de tous ceux qui ont été expulsés. Et la question centrale, elle est là aujourd'hui du droit au retour. Parce que si tous les Palestiniens qui ont été expulsés, leurs enfants d'aujourd'hui ou leurs petits-enfants d'aujourd'hui, y revenaient sur cette terre de Palestine qui est la leur historiquement, ils sont majoritaires en termes de population. Et donc les gens qui sont sionistes, ils sont minoritaires sur la terre de Palestine. Donc cette histoire-là, ben, il faut bien l'avoir en tête parce que, d'ailleurs, les Juifs du monde entier, si on faisait un vote des Juifs du monde entier, je ne suis pas du tout convaincu que les sionistes seraient majoritaires. Sinon, y en aurait un peu plus dans le monde qui auraient fait leur alia, comme ils disent. Cette idée-là, si on l'accepte, enfin, on faut accepter l'idée que l'État d'Israël, c'est légitime comme création, c'est accepter l'idée d'un État théocratique. Alors, il faut accepter l'Arabie saoudite, il faut accepter le principe de la République islamique de Mauritanie, il faut accepter qu'il y ait des États qui soient fondés sur la base de la religion. Alors, moi, je le refuse, pour quelque religion que ce soit. Et donc, j'anticipe peut-être sur la suite, mais la solution, c'est quoi? C'est un État. En tout cas, vu de l'extérieur, après c'est les Palestiniens qui décident, mais un État qui rassemble, comme c'était avant la création de l'État d'Israël, des Juifs, des catholiques, des musulmans, des athées, des bouddhistes, j'en sais rien moi. Mais déjà, sur la base, c'est un territoire historique. Ouais.
Je pense à un très beau film qu'on a pu projeter, c'est le film de la réalisatrice Marie Géniès qui explique très bien cette question-là et qui présente trois familles, une famille juive, une famille musulmane et une famille chrétienne. Et tout au long du film, ces témoignages expliquent bien que peu importe finalement la religion, toutes les familles ont eu des personnes qui sont passées par la prison.
Oui, c'est ça, parce que il y a des Juifs persécutés en Israël parce qu'ils n'acceptent pas la logique sioniste. Et voilà, ça on le sait moins, on en parle moins, c'est parce qu'évidemment ils sont moins nombreux. Ça existe, voilà. Et le sionisme, c'est vraiment une idéologie. Je ne sais pas s'il y a. Je cherche à réfléchir si dans le monde il y a des. Oui, il y a des bouddhistes qui ont un peu ce type de comportement. Dans certains pays d'Asie, et il peut y avoir des catholiques ailleurs, du temps des Belges, là, du Congo belge, ça c'est sûr que c'était, ou de l'Espagne conquérante de l'Amérique du Sud, c'était un peu ça, mais dans la période actuelle, je ne sais pas s'il y a un autre exemple d'État qui veut s'imposer sur la base d'une religion avec, qui doit être pas prédominante, exclusive du territoire.
Et peut-être que tu peux nous transmettre aussi ton analyse par rapport au traitement médiatique de... du traitement médiatique en général en France, de cette question palestinienne qui est assez scandaleuse.
Mais moi, je dis souvent, parce que j'ai la chance d'avoir des amis en Israël et au Liban notamment, il vaut mieux lire la presse israélienne que la presse française. Même la presse donc israélienne, qui est par nature sioniste. Hein. Par exemple, sur la réalité de ce qui s'est passé le 7 octobre, je rappelle que le 7 octobre, là, pour le moment, Israël a toujours refusé la mise en place d'une commission internationale que le Hamas voulait, que le Hamas était prêt à accepter. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il y a un journal qui s'appelle Haaretz qui a fait une étude très approfondie sur ce qui s'est passé. Il a recueilli des témoignages auprès d'un certain nombre de gens, il a pu chiffrer, etc. Il a donné des chiffres très précis du nombre de morts qui sont dus à l'aviation israélienne qui a tiré dans le tas, y compris sur les siens. Voilà. Évidemment, la version que laisse à penser Haaretz, elle n'est pas du tout ce que la presse française nous donne. C'est-à-dire qu'on est devant la bizarrerie que même des Israéliens sionistes ne corroborent pas ce que dit la presse occidentale française. Enfin, occidentale et française, parce que je pense qu'ailleurs c'est pareil. Donc on est devant un traitement de l'information, mais ce n'est pas vrai que pour cette guerre-là, hein, qui est complètement asymétrique et qui est complètement faux. Quoi. Voilà. Après, je veux dire, toute mort, c'est déplorable. Voilà. Même si c'est un soldat qui est tué, même si c'est encore plus c'est un civil, c'est déplorable. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée que quelquefois les peuples sont obligés de prendre les armes, ce que je comprends. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que je ne me verrais pas tuer quelqu'un. Voilà. Mais c'est... Après, il ne faut pas transformer la réalité des choses. Le 7 octobre, il y a 9 factions palestiniennes qui ont décidé de faire péter le mur pour prendre des otages parce qu'il y avait à l'époque 8000 otages palestiniens dans les geôles israéliennes sans jugement. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas le Hamas qui a intervenu, c'est 9 factions palestiniennes, donc le FPLP, le FDLP, la brigade d'Al-Aqsa, enfin il y avait 9 factions. Et par rapport à la religion, je pense que quand la presse parle du Hamas, elle fait exprès. C'est pas une guerre du Hamas Israël. Hein. On peut penser ce qu'on veut des moyens d'action. Est-ce qu'ils ont eu raison le 7? Est-ce qu'il fallait? C'est une guerre des Palestiniens contre les Israéliens. Voilà, c'est pas pareil de dire ça. Et ce qu'on dit jamais, parce que ça nous arrange pas, c'est que quand il y a eu la guerre en Syrie, les combattants du Hamas qui étaient en Syrie, ils ont combattu aux côtés de Bachar el-Assad, qui n'est pas un musulman, qui est un laïc, contre Daesh, qui se présentait contre les musulmans. Donc, on dit que le Hamas est des fanatiques musulmans, on se calme là. Voilà. Ce n'est pas tout à fait les choses comme ça.
Une question, Charles. La Palestine, est-ce que cela... Est-ce que ça a toujours été appelé Palestine hein, ou bien est-ce qu'il y a eu d'autres qui s'appellent d'autres appellations?
Non, la terre de Palestine, ça a toujours été la Palestine. Après, avec l'occupation...
Par rapport aux occupations, je parle. Oui.
Voilà. Après, avec les occupations, il y avait l'Empire ottoman. Donc c'était l'Empire ottoman. Mais c'était une région de l'Empire ottoman.
D'accord.
Et quand les Anglais sont arrivés, c'était une possession anglaise, mais c'était la Palestine. Israël, ça n'a jamais existé. C'est une création D'accord. de 1945, ça. De 47 à l'ONU. Quoi.
Donc la Palestine a constamment été occupée, pratiquement.
Eh bien, elle a été constamment occupée. Alors en plus, il faut bien comprendre que pendant des centaines d'années, ça a été une rivalité entre l'Église catholique et les Arabes. Pas les musulmans, je dis bien les Arabes. Sur la base de la revendication territoriale. Et c'était les croisades, ça a commencé par les croisades. C'est-à-dire, alors, les croisades, c'était en principe récupérer le tombeau du Christ, la bataille autour de Jérusalem, etc. Mais en fait, c'était aussi la possession de la terre et du pourtour de la Méditerranée. Mais dans ce contexte-là, on était quand même arrivé à un moment donné que Jérusalem soit reconnue ville internationale, puisque Jérusalem a un statut à part, avec les trois religions monothéistes, avec dont Jérusalem est le siège. Donc si on est arrivé pour Jérusalem, on aurait très bien pu y arriver pour l'ensemble de la Palestine et dire de la mer au Jourdain, ben, c'est la Palestine, et dedans, ben, il veut qui veut. D'ailleurs, ce que disait Yasser Arafat, il disait toujours, mais si les Juifs étaient venus en nous disant qu'on veut s'installer ici, le pays était vide, ils étaient les bienvenus. Mais s'ils viennent et qu'ils nous prennent nos maisons et qu'ils nous foutent dehors et qu'ils nous tirent dessus, non, c'est la guerre. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Donc il n'y a jamais eu de refus des Palestiniens d'accueillir des gens d'autres religions, d'autres pays. On n'a pas cet exemple-là dans l'histoire. C'est une perversion pour ça. C'est très important, je trouve, d'écouter ou de lire ce que dit Tzedek ou le JFP. C'est une perversion de la religion juive, quoi. C'est pour ça qu'il y a, aujourd'hui, il y a des juifs aujourd'hui qui se font matraquer. Ta question est importante. C'est pas un combat des juifs contre les musulmans. Hein. Voilà.
Et comment comprendre dorénavant que le Liban soit touché ?
Alors, ben le Liban, historiquement d'abord, c'est le pays du monde où il y a le plus d'immigrés. Et c'est notamment lui qui s'est retrouvé, quand il y a eu la trahison des autres, à accueillir un certain nombre de Palestiniens. Alors, le Liban, il a plusieurs défauts. Premier défaut, il accueille beaucoup de Palestiniens. Deuxième défaut, au sud du Liban, il y a beaucoup d'eau, et pour les Israéliens, cette eau, elle est précieuse pour leur terre cultivable. Et troisième défaut qu'il a, le Liban, c'est un pays qui est très faible militairement, et en tant que puissance d'État. Donc c'est une cible idéale pour Israël, sauf qu'à l'intérieur du Liban, il y a des forces qui se battent pour résister, notamment le Hezbollah. Alors qu'on nous met plein de warnings sur le Hezbollah, comme pour le Hamas. Moi, qui ne suis pas musulman, enfin, je regarde ça. Ce que je sais, comment dire, c'est que j'ai une force de résistance. On peut dire ce qu'on veut. Mais après, les mêmes qui nous disent ça, ils nous récitent par cœur le poème d'Aragon, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Parce qu'on a bien connu, ici, en France, une alliance des catholiques majoritairement à droite avec les communistes pour libérer le pays des nazis. Quand il y a la guerre d'occupation comme ça, il y a des gens qui vont se mobiliser contre la colonisation avec des angles de vue différents. Mais ça, c'est la loi des choses. Ça, c'est les gouvernements, les armées populaires de libération, tous les titres qu'on peut avoir là, dans les mouvements qu'on connaît, c'est des regroupements. Hein. Si je prends Fidel Castro, au départ, c'était un catholique de droite, hein, comme Chavez, d'ailleurs. Et donc, quand ils se mettent à combattre pour leur pays, c'est parce que leur pays, il est massacré par l'impérialisme. C'est pour ça qu'ils se battent pour leur pays.
Émilie, quelque chose à dire ?
Eh ben, comme il nous reste quelques minutes, on peut peut-être faire un point sur les prochaines dates de mobilisation pour soutenir la libération de Georges. Je pense notamment à ce jeudi 24 octobre. Alors un peu partout en France, il va y avoir des rassemblements. Je sais qu'il va y en avoir du côté de Lyon, Paris, Marseille. Charles pourra compléter la liste, je sais qu'il l'a mieux en tête. En tout cas, pour Marseille, le rendez-vous est donné à 18h30 devant la préfecture. L'appel est donné par Urgence Palestine Marseille, la jeunesse communiste et l'ANC. En tout cas, c'est une date qui permet aussi à celles et ceux qui ne peuvent pas participer à la grosse journée du 26 octobre, en tout cas, d'être présents. N'hésitez pas à ramener banderoles, drapeaux. Il y aura en tout cas une intervention des groupes organisateurs pour alerter, pour informer sur la cause de Georges Ibrahim. Et puis là, on est aussi dans l'organisation donc, de la grosse journée du 26 octobre où, comme Charles a pu le dire, il y a énormément de monde qui prévoit de venir à Lannemezan. Donc Lannemezan, c'est dans les Hautes-Pyrénées, là où Georges Ibrahim est enfermé dans le centre pénitentiaire. Donc l'idée, c'est qu'on embarque dans les cars à 5h du matin depuis la gare Saint-Charles. Il y a différents arrêts, parce qu'on a été beaucoup sollicités par différents groupes. Donc des arrêts vont être prévus à Nîmes, Montpellier, Béziers et d'autres villes encore. L'idée, c'est de pouvoir remplir trois quarts pour faire une magnifique délégation, en tout cas des Bouches-du-Rhône à Lannemezan. Donc c'est une grosse organisation, il reste encore quelques places, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux, ça sera assez facile en tout cas de trouver un lien sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour vous inscrire. Il reste encore quelques places. J'oublie quelque chose ?
Non, c'est que ce qui est à souligner cette année, alors je ne sais pas comment on va être au final, mais...
Qu'on commence l'émission, on était à 150 inscrits, il reste encore...
sur Marseille.
Voilà.
150 inscrits, donc un peu plus d'une vingtaine en voiture, en plus. Mais nationalement, nous, on pense qu'on va doubler... le score de la plus grosse manif qu'on a faite à Lannemezan.
Qui était la précédente ?
Alors, la précédente, je ne suis pas sûr, c'est peut-être celle d'avant. Celle d'avant. Mais en tout cas, on était un millier. Là, je pense, on espère bien. Là, ce qu'on attend, c'est être bien plus nombreux que ça. Et effectivement, je confirme. Moi, demain, je vais à Châteauroux. Enfin, Châteauroux, personne ne sait où c'est sur la carte. Quoi. N'empêche que demain, il va y avoir une initiative pour Georges. C'est même pas moi qui l'ai proposé, c'est venu des gens du coin. C'est-à-dire que l'histoire de Georges, ça a pris de la peur en fait.
Mais en tout cas, de la manière dont on a travaillé, c'est aussi des organisations qui, tout au long là, des derniers mois et dans les mouvements palestiniens, ont porté haut et fort la cause de Georges. Et c'est vrai que maintenant, les manifestants ont bien entendu que de militer pour la libération de Georges, c'est soutenir la libération de la Palestine bien et sûr. L'autodétermination du peuple palestinien.
Une question, Charles. Combien de fois tu as vu Georges Brahim Abdallah?
Sa cellule ?
Oui.
Deux fois.
Deux fois, d'accord.
Okay. En fait, j'ai fait la demande assez tardivement. Parce qu'au départ, je me suis dit, eh merde, je ne vais pas aller le voir en prison, j'attendais qu'il soit libéré, j'irai avec lui au Liban. Quoi. Alors, d'une part, l'espoir soit assez compliqué aujourd'hui, mais en même temps, dans l'instant, c'est important pour lui d'avoir certaines visites, des visites, et certaines en particulier. Et nous, les échanges qu'on a, ils sont très forts. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette demande-là.
D'accord. Bien, il est pas loin de 3 heures. Merci, Émilie. Merci, Charles. Et donc, à demain pour la journée d'action. C'est bien ça ?
C'est bien ça. Bon, en tout cas, moi, juste un dernier petit mot. De nouveau, remercier l'équipe et puis aussi dire que c'est une radio absolument à soutenir. J'ai eu écho qu'il y avait éventuellement qu'il était possible de soutenir cette radio pour qu'elle puisse continuer à produire des émissions. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site pour faire un don et soutenir cette belle équipe.
Effectivement,
merci, merci la régie.
Merci d'avoir écouté l'émission. Effectivement, il y a un Hello Asso qui est sur le site de Radio Galère, radiogalère.org. Vous pouvez aller mettre de l'argent dans le site pour la table de mixage. Et je rappelle aussi qu'il y a l'apéro mix de rentrée de Radio Galère qui est le 29 octobre, donc c'est mardi prochain à 19h dans les studios de Radio Galère. Donc venez nombreux et nombreuses pour participer. Il y aura aussi la possibilité de mettre de l'argent dans la cagnotte à ce moment-là et d'adhérer à Radio Galère. Merci.
Merci.
C'était Article 25.